おかしいおかしい。
Tout de suite, l'émission en dialogue entre Congolais avec Thierry Impala, la présentation.
Bonsoir. Dernier sommet de la SADC en Afrique du Sud, la RDC refuse de s'engager immédiatement à la zone de libre-échange. Quelles en sont les raisons? Quels bénéfices la RDC pourrait en tirer en adhérant à cette zone de libre-échange? C'est le thème de l'émission Dialogue entre Congolais de ce lundi 18 août 2008. Il faut noter qu'au cours de ce 28e sommet qui s'est tenu du 15 au 17 août en Afrique du Sud, une zone de libre-échange en Afrique australe visant à supprimer toutes les barrières douanières d'ici 2012 a été officiellement lancé dimanche lors de ce sommet à Johannesburg. Pour en parler, nous recevons comme invité l'EMSCAMONIA, chargé de projet au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, COFIREP, une structure gouvernementale, Moussenga Chipangila, professeur d'économie à l'université de Kinshasa, et Philippe Dioya, professeur des relations internationales à l'université de Kinshasa et de Lubumbashi. Nous avons déjà des réactions des nombreux. C'est le cas de Jules Chibambe qui n'a pas mentionné sa province d'origine. Lui dit ceci, je cite, je salue la décision de la RDC car il faut qu'elle commence d'abord par organiser son économie au lieu de se faire membre d'une organisation régionale tout en ne servant à rien. Fin de citation. Est-ce que la RDC refuse d'adhérer à la zone de libre-échange parce que dans le pays il y a beaucoup de fraudes douanières, s'interroge Abibou Romain de Bounia dans la province orientale. Enfin, donc David Bouanga de Manono au Katanga pense que l'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange n'apportera pas de soulagement aux problèmes des Congolais. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Nous le disions dans le titre, 28e sommet de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe. Cette organisation a procédé dimanche dernier au lancement d'une zone de libre-échange. La RDC n'est pas prête à participer immédiatement à cette zone, a déclaré Mboussa Yamoussi, ministre congolais des Affaires étrangères et à la coopération internationale. À ce propos, la RDC sollicite un moratoire en ce qui concerne sa participation. On écoute Mboussa Yamoussi au téléphone de Marie-Chantal Lumba.
Le Congo ne va pas prendre les traits à ce stade et d'autres pays comme l'Angola aussi pour la simple raison que nous avons des réformes économiques internes qu'il faut mener pour pouvoir mettre notre économie à niveau et à soutenir les conséquences de cette libre-échange. Nous restons néanmoins membres de ce processus parce que nous allons négocier un moratoire qui nous permette de pouvoir suivre les pas des autres légèrement après.
Et il faudrait combien de temps pour la RDC pour pouvoir participer à ces à cette zone de libre-échange?
Le tout dépend des réformes qui sont menées sur le plan interne.
Vous pensez que chacun ne produit pas, donc elle n'a rien à offrir aux autres pays?
Certes, elle produit, mais le niveau de production est encore assez faible pour des raisons diverses. Nous avons une économie qui doit se construire.
L'économie congolaise risque de subir un coup si la RDC adhère immédiatement à la zone des libre-échange lancée dimanche dernier à Johannesburg. C'est le cas du budget national qui dépend en partie des recettes douanières. Ces propos ont été tenus par le député national Koutekala Albert, président de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale. On l'écoute, il est au micro de notre confrère René Capitaine.
Vous savez que le douane représente une bonne partie des recettes publiques. Si aujourd'hui les douanes ne savent plus rien produire, eh bien, nous serons bloqués même sur les plans budgétaires. Je veux bien, il faut que les choses coûtent le moins cher possible. Il faut qu'il n'y ait pas de barrières pour que la population puisse vivre à l'aise. Mais il faut également qu'il y ait de l'industrie locale ici, parce que ça donne du travail, parce que ça crée de l'emploi. Mais si ce n'est pas possible, nous serons bloqués, nous serons plus qu'un pays qui ne consommera que ce qui est fabriqué ailleurs. Allez sur l'avenir Côte Cato, vous allez vous rendre compte, quand nous allons nous commencer à produire tout ce qui est vendu là comme des gaziers, comment nous allons vendre ça? Parce que pour fabriquer tout ce gaziers là, il faut quand même une certaine technologie qui coûte le prix que ça coûte. Nous risquons d'être bloqués pour notre propre développement, pour ne favoriser que les produits qui viennent de l'extérieur.
L'EMSCAMONIA, bonsoir. L'EMSCAMONIA, bonsoir. On me signale que nous n'avons L'EMS-Camonia, on me signale que vous êtes en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous êtes chargé de projet au COPIREP, au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, une structure du gouvernement. Quelles sont les raisons concrètes qui justifient ce réserve de la RDC d'adhérer à cette dans cette zone des libre-échange et pourquoi également ce moratoire?
Moi, je pense qu'il faut commencer par expliquer dans des termes plus simples les contenus même de la participation à cette zone de libre-échange. En fait, lorsque plusieurs nations se mettent ensemble et veulent créer une zone de libre-échange, c'est-à-dire qu'ils veulent tout simplement reconnaître que la circulation des produits et des marchandises entre leurs pays soit libre, c'est-à-dire, exemple, des droits de douane. Or, si on prend le cas de notre pays, où nous avons une économie qui n'est pas tellement développée, où la plupart de ce que nous consommons est importé, si aujourd'hui la RDC accepte de participer dans cette zone de libre-échange, cela signifie que l'importation comme l'exportation des biens et services entre notre pays et tous les pays de l'Occident sera exempt des droits de douane. Alors, la première conséquence est celle-là. Nous avons des ressources fiscales qui dépendent massivement des droits de douane. Aujourd'hui, accepter que toutes les importations qui proviennent des pays de l'Afrique australe ne soient pas taxées, cela signifie qu'on va réduire sensiblement les ressources de l'État, avec comme conséquence d'avoir un budget faible et ne pas permettre à l'État d'avoir le moyen de sa politique. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est quoi? Nous avons une économie qui n'est pas développée. Nous exportons moins, mais nous importons plus. Au fur et à mesure que vous ouvrez votre frontière à l'entrée gratuite des produits étrangers, cela pousse les opérations économiques internes à accroître leur niveau d'importation. Les importations augmentant par rapport aux exportations qui n'existent pas, vous allez déséquilibrer votre balance de paiement et vous allez même importer non seulement des biens et des services, vous risquez d'importer le chômage, vous risquez d'importer l'inflation et vous risquez d'importer la partie de votre monnaie. Parce que tout le monde va essayer à convertir la monnaie congolaise contre les devises qui doivent lui permettre d'acheter des produits sur les autres pays où on pratique le libre-échange. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est une décision qui est tellement salutaire, parce que lorsque une nation participe au commerce international, ce n'est pas tout simplement pour le plaisir d'y participer, mais c'est pour trouver un gain au moment de cette participation. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Merci. Qu'est-ce que nous allons exporter et qu'est-ce que nous allons importer? Mais lorsqu'on compare nos exportations par rapport à nos importations, aujourd'hui, ouvrir nos frontières serait vraiment suicidaire, aussi bien pour l'économie, notamment les petites et moyennes entreprises qui se développent à l'intérieur, que par rapport aux recettes fiscales.
Merci.
Vous allez décourager ceux-là qui veulent produire et investir à l'intérieur du pays.
Merci, Lens Camonia. Nous vous avons suivi. Nous allons passer la parole au professeur Bioya. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que vous dispensez cours des relations internationales à l'université de Kinshasa et de Lubumbashi au Katanga. Vous venez de suivre l'EMS Kamonia. Vous avez suivi. La RDC demande un temps pour son adhésion à cette zone des libre-échanges alors que aujourd'hui le monde actuel se globalise, professeur. Votre réaction?
Non, mais la globalisation est une conséquence d'un développement interne des économies des États qui deviennent compétitives. On peut participer activement à la globalisation comme on peut subir la globalisation. Je crois que le problème de la RDC est un problème réel. L'intégration économique en elle-même ne résout le problème que si les économies peuvent créer un réseau d'interdépendance. Alors ici, je crois que c'est pour la deuxième fois, pas seulement pour la SADEC, il y avait déjà pour le COMESA depuis 99, nous n'avons pas pu souscrire à la zone de libre-échange. Donc notre économie est toujours non compétitive. Notre économie vit en fait des recettes, comme l'autre a dit, des recettes douanières. Mais ici, on veut affranchir le pays en fait de ces recettes douanières en engageant en fait le commerce intra-région. C'est-à-dire qu'il y aurait intérêt à vendre, si nous avions à vendre, et à acheter les autres. Mais si on n'a rien à vendre et si on n'a pas assez de moyens d'acheter, tu vois, ça devient un peu difficile. Je crois que c'est un processus. On le prend quand on le peut, comme disait Moussa. Mm-hmm. Et il faudra espérer que finalement on le prendra. parce que moi je pense que il y a un devoir à travers tout ce que toutes ces hésitations pour la RDC de revenir en elle-même et de construire son économie. Parce que l'économie de la RDC, c'est une économie à laquelle tout le monde regarde. Mais cette économie-là, si elle ne peut pas alimenter l'intégration régionale en Afrique australe comme en Afrique centrale, c'est qu'elle ne possède jamais l'intégration.
Professeur Biyuya, est-ce qu'il n'y a-t-il pas crainte que nous soyons avalés par les économies fortes telles que l'Afrique du Sud?
Non, mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de moyens en fait de tirer profit de cette économie. Je voudrais vous rappeler que Mandela, l'ancien président Mandela au commencement, Mandela ne voulait pas de l'adhésion de la RDC à la SADC. Pourquoi? Parce que la RDC, disait-on, n'avait pas d'économie, on ne peut pas entrer dans une intégration économique quand l'économie n'est pas. Alors, nous, si nous voulons tirer profit de toutes les intégrations, il faut d'abord que notre économie congolaise à l'intérieur soit intégrée. Parce que nous sommes un grand espace économique, nous sommes un grand marché, mais qui ne fonctionne pas. C'est ça le problème. Donc nous pourrons tirer profit de ces économies que si on ne peut pas entrer dans une intégration économique avec l'Afrique du Sud, un pays industriel, avec des ressources naturelles comme on le fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ça en fait le problème.
Merci professeur Biyuya, nous allons y arriver. On a un autre professeur dans cette émission. Professeur Musenga Chipangila, bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que vous êtes professeur d'économie à l'université de Kinshasa. Vous venez de suivre les réactions de M. Lems Kamonya et du professeur Biyoya par rapport aux réserves de la RDC d'adhérer à cette structure, à cette zone de libre-échange. Mais professeur Musenga Chipangila, le Zimbabwe avec une inflation record signe cet accord de libre circulation et pourquoi pas la RDC?
Moi, je pense que mes collègues prédécesseurs ont perçu la situation exacte qui vaut la peine. Et le gouvernement, je ne peux que lui donner raison maintenant parce que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Vous faites des analyses dans votre propre pays avant d'y aller. Vous voyez vos performances. Si nous y allons, il faudrait cotiser d'abord, et puis le reste, mais vous ne pouvez en tirer profit que dans la mesure où vous avez quelque chose à donner et puis recevoir. Dans l'état actuel, le gouvernement a inventorié la situation, il a trouvé que ça ne vaut pas la peine. Regardez, il y a plusieurs organismes régionaux auxquels d'autres pays appartenaient dans le temps et d'autres pays n'avaient pas cotisé. En ce moment-là, nous ne pouvions pas tirer les avantages de là, assister à des conférences, à des réunions, participer de telles et telles facilités. Nous ne le pouvions pas parce que nous n'avions pas cotisé. Et maintenant, l'État dit très bien que la situation budgétaire ne nous le permet pas encore. Nous demandons un moratoire et puis nous attendons que nous ayons quelque chose à donner en retour. Alors, ça marchera. Je suis d'accord avec ça.
Sans pour autant vous interrompre, professeur Chipangila, ce moratoire peut aller sur combien de temps, combien d'années la RDC sera-t-elle?
Il y a un programme là-bas de reconstruction nationale. Et on est en train de travailler. Et nous attendons, ça peut prendre 2 années, ça peut prendre 3 années. Et c'est l'évolution de la situation qui va nous aider à savoir combien d'années il faudrait pour lever ce moratoire-là.
Merci, professeur Chipangila. Lems Kamonya, quels sont les préalables pour que la RDC, les préalables concrets, pour que la RDC finalement adhère à ce marché? Qu'est-ce qu'il faut réellement?
Moi, je pense que les préalables, nous devons les rappeler en 3 grandes catégories.
Allez.
La première catégorie, c'est d'abord une réforme de la fiscalité. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que les ressources fiscales qui soutiennent le budget de l'État dépendent pour plus de la moitié des recettes moyennes. Tant que le budget de l'État dépend de recettes tirées de l'importation, on ne peut pas se permettre, au moment où, au niveau de la Direction générale des impôts et au niveau de la DGRAD, on n'arrive pas encore à élever le niveau des recettes, prendre des mesures qui compromettent en fait, l'enveloppe globale escomptée par l'État pour faire face à l'ensemble des besoins économiques et sociaux de la population. Je crois que la première des choses, c'est arriver à réussir la réforme fiscale, élargir la fiscalité fiscale et arriver à maximiser sensiblement les recettes extérieures.
Vous voulez parler au niveau des régies financières comme l'OPIDA, la DGRA et autres?
Au niveau des deux régies, parce que pas l'OPIDA, mais plus, pas, principalement la DGU et la DGRA. Si ces deux régies financières arrivent à élargir leurs assiettes et à maximiser les recettes, à ce moment-là, on peut se permettre de se dire, même si les recettes ne sont pas importantes, même si l'OPIDA n'a plus les coûts actuels, mais il y a quand même une alternative qui permet de
s'équilibrer
au niveau du budget de l'État.
L'EMS Camonia, avant que vous ne passiez au deuxième préalable, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui le gros du budget de la RDC?
C'est les ressources douanières. Je crois que ça intervient pour plus de la moitié, entre 60 et 30% du budget de l'État, ça provient de l'OPIDA.
Ok, allez-y.
Voilà. Le deuxième préalable, c'est les réformes économiques qui s'engagent dans notre pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas le plus moyen d'entreprise. Or, économiquement parlant, le plus moyen d'entreprise représente des pépinières qui deviendront des grandes entreprises de demain. Alors, si vous vous permettez de satisfaire votre demande intérieure, votre consommation par les produits qui sont importés, et que vous prenez des mesures pour rendre gratuit et d'entreprise des produits importés sur votre territoire, à ce moment-là, vous ne protégez pas votre industrie naissante. Vous exposez les entreprises intérieures qui doivent grandir pour tenir les rangs de votre économie à la concurrence extérieure. Alors, à ce moment-là, tant que les entreprises n'ont pas encore grandi, n'ont pas encore dégagé des gains de productivité pour arriver à satisfaire la consommation intérieure et exporter, on ne peut pas se permettre de prendre une décision. Si vous la prenez, c'est comme si vous condamnez toutes les entreprises telles que l'Itex Africa, le textile, et tout ce qui sont dans le secteur de la biscuiterie, le secteur de la première ou seconde transformation.
Allez-y.
On ne peut pas une économie assez développée qui permet de couvrir ça. On ne peut pas se permettre de couvrir ces entreprises contre la concurrence étrangère.
Troisième
réel.
L'EMS Camonia ?
Oui, je vous écoute.
Vous parlez le troisième préalable ?
Voilà. Alors, le troisième préalable, donc d'abord, j'ai évoqué le premier en terme des réformes économiques dans le sens de la promotion et la protection de l'industrie. Maintenant, le troisième préalable, c'est que nous devons avoir une politique d'industrialisation. Quelle est la politique que nous avons en matière d'industrialisation? Là, en économie, on distingue trois types de politiques. On peut mettre en place une politique d'industrialisation, c'est-à-dire vous avez de grandes unités qui sont supposées permettre d'autres unités, ou bien vous avez la politique d'import substitution. À ce moment-là, vous supposez que les entreprises que vous créez à l'intérieur, c'est pour remplacer tout ce que vous importez, ou bien vous avez une politique d'export substitution. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à améliorer et à valoriser les produits qui sont en train d'exportation. Tant qu'on n'a pas encore fait le choix de cette politique-là, stratégique au niveau de l'industrialisation, je pense qu'il est trop tôt de pouvoir adhérer à cette zone-là. Je le répète, lorsqu'une nation participe au commerce international, par exemple, le plaisir, c'est pour trouver un usage. Et les gains qu'on tire lorsqu'on est dans un ensemble économique, c'est lorsqu'on est en mesure de pouvoir exporter.
On a compris.
Exporter non pas les matières brutes, les matières premières, mais des produits élaborés qui ont une valeur assez importante.
Merci, Lens Camonia. Professeur Philippe Bioya, je précise que vous êtes professeur en relations internationales à l'université de Kinshasa et de Lubumbashi. Êtes-vous du même avis que Lens Camonia, qui estime que, comme préalable, il faudrait d'abord la réforme de la fiscalité, de l'économie et puis une politique d'industrialisation en RDC pour finalement que la RDC adhère à cette
question? Le plus important, tout ce qu'il dit là, c'est vrai d'un certain point de vue, mais ce qui manque le plus lorsqu'on s'engage dans une politique économique internationale, c'est d'avoir de disposer d'une politique d'intégration. Le problème, c'est que la RDC se retrouve dans des organisations régionales sans politique. C'est-à-dire, quelle est l'idée que nous avons de ces organisations? Pourquoi nous adhérons à ces organisations? Si tout le monde parle de SADC, SADC, on ne sait pas ce que nous aurions été avec la guerre que les voisins nous ont fait. Mais quand on est allé là-bas, on ne savait pas qu'il y aurait de guerre. Donc, c'est par hasard qu'on se trouve là-bas. Je vois le plus grand préalable, c'est que nous ayons une politique, une stratégie de ces choses-là. On n'entre pas dans l'intégration régionale simplement parce que on a une économie, on veut vendre. Le vrai problème, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, la zone de libre-échange décrète la région de la comme un marché. C'est que celui qui a des possibilités de vendre énormément de biens, de couler énormément de biens sur ce marché, il peut ne pas en fait percevoir des taxes spéciales, parce qu'il gagnera en fait sur le marché. Lui, il arrête son économie, il joue la compétition. Et on pouvait gagner avec ça.
Professeur Biouya.
Oui.
S'il vous plaît, vous pouvez encore répéter ce que vous venez de dire brièvement parce que la ligne ne semblait pas être très
bonne. Je disais qu'il faut avoir une politique d'intégration régionale que nous n'avons pas. Et nous sommes entrés dans toutes ces organisations par opportunisme, pourrait-on dire. Nous n'avons pas un objectif que nous visons, nous ne savons pas quel intérêt à court, à moyen, à long terme tirer. Parce que lorsqu'on parle d'une zone de libre-échange, c'est qu'on fait de l'espace, comme l'Afrique australe, un marché. C'est-à-dire c'est lui qui a le moyen de vendre le plus de biens sur ce marché, mais il ne voit pas pourquoi il va faire des restrictions, des barrières, parce qu'il entre la compétition économique qui joue. Ici, il y a, quand on parle de la politique d'industrialisation, je crois qu'il a raison, parce que pour gagner en compétitivité, il faut des biens industriels. Vous avez posé une question sur le Zimbabwe, mais le Zimbabwe est une économie industrielle par rapport à l'autre, mais une économie industrielle qui aujourd'hui qui a des problèmes d'ordre financier, c'est pas des problèmes d'ordre économique fondamentalement.
Professeur Biouya, oui. Justement par rapport à tout cela, pour que la RDC remplisse tous ces préalables, donc nous pouvons voir l'adhésion de la RDC à dans cette zone de libre-échange dans un avenir un peu très lointain.
Mais il faut qu'on le décide. Je vous ai dit que déjà, depuis 1999, avec COMESA, qui est aussi le marché commun de l'Afrique australe et orientale, nous l'avons demandé, nous avons négocié un moratoire. Mais depuis ce temps-là, le côté, c'était que nous étions en guerre. Jusqu'à aujourd'hui, le moratoire n'a pas été levé. Nous ne sommes donc pas dans la zone de libre-échange. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne le domaine de l'aviation. La compagnie aérienne, par exemple, c'est l'Égypte, qui est membre du COMESA, ne peut pas utiliser nos fréquences. Parce que nous avons une approche trop nationaliste, nous voulons à chaque fois que les gens qui sont avec nous dans la communauté payent en fait le droit d'entrer chez nous. Donc nous ne saurons jamais profiter aussi de la liberté qu'on nous donne d'aller exploiter chez eux et d'utiliser leurs fréquences. Donc là, je crois qu'il y a un sort de protectionnisme rétrograde qui condamne finalement la vocation de notre économie à être une économie africaine, une économie en fait globale.
Merci, professeur Biouya. Professeur Moussenga Chipangila, comment ça se passe concrètement dans cette zone de libre-échange? Est-ce que y a-t-il de recettes quand différents pays ouvrent les barrières? Comment concrètement ça se passe? Expliquez un peu aux auditeurs.
Je dis tout à l'heure que notre pays a avantage d'attendre un tout petit peu. Ce n'est pas nécessairement pour cette théorie classique déjà connue de développement de l'entreprise naissante et ainsi de suite, parce que ça fait depuis très longtemps que notre entreprise est en train de naître. Je suis d'accord avec les autres, mais nous devons, dès le moment, comme on a commencé un programme, restructuration, réorganisation de l'économie, ainsi de suite. Vous savez que c'est d'abord la personne humaine qui est à la base de tout. Si nous n'avons pas la personne qu'il faut, en ce moment-là, nous pouvons entreprendre n'importe quel programme, nous serons toujours ce que nous sommes. Il nous faut nous organiser, nous-mêmes prendre la décision que nous voulons aller de l'avant, et puis organiser ce que nous avons avant d'entrer là-bas. Il est indispensable d'entrer dans les organismes internationaux, parce que il y a de l'entraide. La mondialisation qui arrive maintenant, vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter, la mondialisation entrera toujours. Et vous serez un indépendant, vous allez suivre les autres. Donc, il faut nous organiser rapidement pour y aller, organiser notre économie. Le théorie de développement de la petite entreprise de l'État, quand est-ce qu'elle croîtra? Donc c'est tout un problème. Il y a des théories qui étaient avancées par des économistes de développement ainsi de suite qui interviennent assez souvent, mais il faut voir à quel niveau ces théories ont échoué chez nous.
Professeur Moussena Chipangila, est-ce qu'il n'y a pas des droits de douane dans les zones de libre-échange, par exemple?
Il y a des droits de douane. Il y a des droits de douane. Maintenant, examinons d'abord l'importance du commerce extérieur entre nous et les pays voisins. Quelle est l'importance de ce commerce? c'est généralement bénin, ce commerce. La plus grande partie du commerce, c'est avec les pays d'outre-mer, ainsi de suite. Et maintenant, avec la Chine qui arrive et les autres, le pays de l'Asie et autres. Entre nous-mêmes, entre Brazza qui soit ça, Angola qui soit ça, Zimbabwe, Zambie, ainsi de suite. Quelle est l'importance de ce commerce-là? Hein? C'est ça le problème. Donc, et tant qu'il y a des problèmes, d'autres problèmes intérieurs, l'appartenance à une organisation régionale peut nous aider. Mais dans l'état actuel, l'état, le gouvernement a dit, notre budget ne nous le permet pas encore. Et je suppose que le gouvernement est en train de réaliser des programmes de restructuration en cours pour que nous puissions éventuellement être prêts pour participer et payer les droits éventuellement, parce qu'il y a des droits qui doivent être payés. Alors, en ce moment-là, on verra ce que ça veut dire.
Oui, l'un témoignage précise que vous êtes chargé de projet au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, une structure gouvernementale. Walter Bilali, depuis Pounia au Maniema, invite la RDC à adhérer dans la zone de libre-échange parce que le pays est resté inexploité pendant longtemps et la population n'est sans pas que son pays est riche. Avec cette libre-échange, les matières premières seront exploitées et la population pourra enfin bénéficier de la richesse de son pays. Qu'en pensez-vous?
Oui, non, je pense qu'il confond les termes. Dès qu'il pose un problème pour l'exploitation de nos ressources naturelles, qui sont les termes potentiels et non pas les termes exploitables, c'est un problème plutôt d'attirer les investisseurs étrangers de venir dans notre pays et développer ses ressources, créer des entreprises, augmenter la production intérieure et créer des emplois. Ça, ça n'a rien à voir avec le libre-échange. Quand on dit libre-échange, cela signifie laisser circuler librement les biens et services au niveau de tous les pays qui sont dans cette zone. C'est là même que je m'étonne que les professeurs ne comprennent pas que quand il y a libre-échange, il y a des droits de douane. Non, je passe à condition que les pays se disent la libre circulation des biens et services se rapporte par rapport à telle catégorie de produits et que par rapport à telle autre, les pays peuvent appliquer un protectionnisme ou appliquer une politique de contingentement. Mais quand on dit libre, c'est une circulation libre, donc la circulation des biens et services au sein des pays de la zone, c'est effectivement. Et cette liberté se conçoit le plus souvent par l'absence du paiement du droit de douane. C'est ce qui fait que, parce que si aujourd'hui les produits importés sont taxés à l'importation, cela augmente leur coût de production et ça diminue un peu leur compétitivité par rapport aux produits intérieurs. Donc, votre histoire de Bouna pose comme problème, c'est plutôt d'attirer des investisseurs étrangers qui doivent venir au pays, créer des entreprises, développer les ressources intérieures et créer des emplois. Ça, ça n'a rien à voir avec le libre-échange. Il suppose que les produits pas produits en Afrique du Sud ou au Zimbabwe peuvent entrer librement en RDC comme si c'était des produits fabriqués localement.
Merci, Lens Kamonia. Dernier sommet de la SADC en Afrique du Sud, la RDC refuse de s'engager immédiatement à la zone de libre-échange. Quel bénéfice la RDC pourrait-elle tirer en adhérant à cette zone de libre-échange? C'est la seconde partie de l'émission de ce soir, mais avant de continuer, suivez d'abord le rappel de notre contact.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Nous tenons d'abord à préciser que tous les efforts fournis pour avoir les membres du ministère des Affaires étrangères ont été voués à l'échec. À travers cette zone des libre-échanges, la SADC ambitionne d'augmenter de 71 milliards de dollars en 4 ans dans les échanges commerciaux dans cette zone, passant ainsi de 360 milliards de dollars américains aujourd'hui à 431 milliards en 2012. Quels sont les enjeux autour de cette zone des libre-échanges? Des explications avec notre confrère Jean Desdieux Ogobain.
Selon les fruits de l'accord, 85% des taxes douanières seront supprimées à la fin de cette année, alors que le 15% restant vont l'être d'ici 2012. Cet accord de libre-échange, appelé aussi Free Trade Agreement, constitue la première phase d'une intégration totale sous forme de marché unique. Accord qui va culminer avec l'introduction d'une monnaie unique en 2018. Outre la République démocratique du Congo, comme nous l'avions déjà dit, le Malawi ne fait pas partie de cette zone de libre-échange. En adhérant à cette zone, quel flux économique la SADC cherche-t-elle à créer? Elle ambitionne une augmentation de 71 milliards de dollars en 4 ans dans les échanges commerciaux dans cette zone, passant ainsi des 360 milliards de dollars américains aujourd'hui à 431 milliards en 2012. Selon son secrétaire exécutif Thomas Salamao, cette croissance est estimée à près de 8% pour l'exercice 2008-2009 contre près de 6% en 2007. Notons que ces chiffres excluent les Zimbabwe dont l'économie est ensuite libre depuis 8 ans. Un fait important à souligner, c'est que plusieurs pays de cette zone de libre-échange font déjà partie d'autres organisations régionales telles que le marché commun d'Afrique orientale et australe, le COMESA, ou encore la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC. Cette situation risque, selon certains analystes, de compliquer les relations avec les autres blocs économiques.
Professeur Philippe Biouya, professeur des relations internationales à l'université de Kinshasa et de Lubumbashi, 71 milliards de dollars d'augmentation en 4 ans. Est-ce que la RDC, si elle rate le train, elle n'adhère pas, ne va-t-elle pas perdre?
Mais pour perdre, il faut d'abord être en mesure de gagner. Il faut d'abord, dans ce que l'on gagne dans les 300 milliards, la RDC gagne combien? Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire, nous avons, il ne faut pas se voiler la face. L'économie de l'Afrique australe tourne autour de l'économie de l'Afrique du Sud qui en tire le plus gros bénéfice. Et je crois que les pays comme l'Angola, justement, qui est une économie d'avenir, a un problème, en fait, de s'engager dans n'importe quel prix parce que il y a un problème, en fait, de profit à tirer justement de ça.
Elle a demandé, l'Angola, professeur, sans vous interrompre, a demandé un délai de 2 ou 3 ans avant son adhésion.
Tout à fait, parce que l'Angola a la possibilité, parce que maintenant, on s'engage sur base de quoi? Ce ne sont pas tous les produits, en fait, qu'on va livrer. C'est-à-dire, il y a toujours ce qu'on appelle une vision internationale du travail. Il faut prospecter le marché et pour savoir en quoi on a un avantage. Parce que si on n'a pas un avantage à quelque chose, on ferait comme nous faisons, livrer tout le bien, tout le produit. Et en ce moment-là, je crois qu'il n'y a aucun avantage comparatif. On est paralysé. C'est-à-dire que nous n'allons pas, en fait, travailler là-bas parce que l'économie d'Afrique du Sud doit prospérer. N'oubliez pas qu'il y a l'île Maurice qui est aussi à la SADC, qui est une économie émergente. Et qu'il y avait déjà un axe qu'on appelle l'axe de la rente diplomatie, c'est-à-dire l'axe où l'économie de l'Afrique du Sud prospère déjà. Alors, je crois que maintenant, si nous voulons, nous, tirer profit de ça, nous devons voir, en fait, comment articuler les choses de telle façon. C'est à la fois que nous leur donnons ce que nous avons à donner, c'est aussi, et intérêt à venir vendre chez nous. Parce que s'il n'y a que nous qui allons chercher à manger ou à vendre chez eux et qu'ils ne viennent pas chez nous, il y aura un déséquilibre et puis on ne sera pas tiré, en fait, profit. On ne va pas entrer dans cette structure-là avec des diamants et des consoles comme quelqu'un voulait dire là-bas parce qu'on va faire du travail. Dans la zone de libre-échange, on ne veut pas que le travail, on n'est pas dans un niveau où on crée des entreprises, où on produit ensemble. C'est ça, en fait, le problème. Donc, nous avons le devoir aujourd'hui de régionaliser l'économie congolaise. C'est-à-dire que le Congo a des ressources qui nous permettent de produire d'abord au niveau africain, au niveau régional. Est-ce que nous avons des entreprises congolaises qui ont l'Afrique, soit l'Afrique australe ou l'Afrique centrale comme perspective, comme marché, comme espace où ils peuvent écouler leurs produits? Est-ce que nous avons des entreprises qui produisent en Afrique du Sud ou qui peuvent produire au Malawi, qui peuvent produire au Mozambique? Nous n'avons rien de tout ça. Mais s'il faut tout produire ici au Katanga et à Mujibay pour là-bas, c'est que nous sommes, en fait, nous n'avons aucun avantage. Nous pouvons même ne pas appartenir à cela et rester chez nous. Ça ne change absolument rien.
Professeur, une question tout à fait simple. À ce jour, un produit tel que le ciment dans notre pays, produit en République démocratique du Congo, est devenu pratiquement un luxe pour certains Congolais. Pourquoi ne pas laisser, par exemple, un Sud-Africain venir vendre ce produit ici, hein, au niveau de la population, et le commun des mortels de la RDC, ils vont se retrouver et acheter ça à un bas prix. N'est-ce pas ça, n'est-ce pas là
c'est vrai, mais là, ça demande le travail. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que l'on analyse les spécialisations, l'avantage comparatif. C'est-à-dire que si nous prouvons que la production du ciment chez nous coûte plus cher, autant l'État, en fait, le père de l'État a toujours produit le ciment pour contenter tous les Congolais, autant que ce ciment à l'étranger. Mais quand nous allons faire venir le ciment congolais ici chez nous, le ciment sud-africain ou mozambicain chez nous, nous, en retour, qu'est-ce que nous livrons au marché qui nous envoie, qui nous enverrait du ciment? C'est ça, la division internationale du travail. Cette division ne disparaît pas parce qu'on est en zone de libre-échange.
Merci, professeur Biyoya. Professeur Philippe Moussenga, une fois la RDC adhère, intègre cette zone de libre-échange où il y aura la circulation des biens et des personnes, que gagne le Congolais qui est, par exemple, au village Katakokombe, au Kasaï oriental, où nous prenons au hasard un Congolais des Kibilangandou dans la province du Bandundu? Quelle retombée pour lui, finalement?
Oui, tout à l'heure, j'ai dit que la douane intervenait ou était concernée dans le libre-échange parce que quand il y a libre-échange, on ne paye pas la douane. Donc on paie. Donc la douane est concernée. Mais quand nous entrons là-bas, les biens qui entrent dans le pays dans le cadre de la libre, du libre-échange vont aller être distribués à travers le pays. Donc si aujourd'hui, les citoyens de
Kibilangundu, dans la province du Bandundu,
achètent des sardines, achètent du ciment, achètent des pommes de papier entre eux, ils seraient éventuellement concernés. Si, effectivement, le ciment peut arriver jusque-là, ainsi de suite. Mais le vrai problème, c'est, comme on a dit, nous devons d'abord nous organiser, commencer à produire entre nous, et puis partir avec quelque chose à la main, et ne pas partir main vide, espérant que tout va nous tomber du ciel.
Merci, professeur Moussenga Chipangila. Nous recevons dans ce studio la porte-parole des auditeurs, Tifou Poutou. Bonsoir.
Bonsoir, Guy Roger. Bonsoir à tous les auditeurs. Vous avez été nombreux à réagir comme d'habitude. Faute de temps, nous ne pouvons pas lire toutes vos réactions. Nous sommes au Katanga, Lubumbashi, Romain Chibang. Il estime que si la RDC veut demeurer toujours pauvre, qu'elle adhère à cette zone libre de change où elle n'a rien à apporter que l'immigration. Katamba Wanango de Bounia en province orientale dit ceci: félicitations à la RDC d'avoir refusé d'adhérer à la zone de libre échange de la SADC, car son marché sera littéralement envahi par des produits de ses voisins du fait de la faiblesse de son économie. Quant à Kamba Lejo de Bukavu Sud-Kivu, le refus de la RDC d'adhérer à la zone de libre-échange est à saluer, car nos voisins cherchent à nous piller, conclut-il. Depuis Bukavu Sud-Kivu, Robert Baomé estime pour sa part que la RDC ne doit pas rester longtemps en dehors de la zone de libre-échange de la SADC, qu'elle y adhère malgré la faiblesse notoire de ses productions. Car, poursuit-il, plus elle y est absente, plus elle sera en train de perdre d'autres débouchés sûrs pour ses potentialités. Enfin, Roger Olivier Biarouanga de Goma au Nord Kivu pense que l'adhésion de la RDC dans la zone de libre-échange serait utopique, car la paix elle-même n'est pas encore établie.
Merci Titi Poutou. Nous demandons à nos intervenants, nos invités, d'être un peu plus concis et précis, parce que nous sommes à moins de 6 minutes de la fin de cette émission. Lems Tamonia, vous avez, il y a un auditeur depuis Bukavu au Sud Kivu, Robert Baomé, lui il estime pour sa part que la RDC ne doit pas rester longtemps en dehors de la zone de libre-échange de la SADC, qu'elle y adhère malgré la faiblesse notoire de ses produits, car, poursuit-il, plus elle est absente, plus elle sera en train de perdre d'autres débouchés sûrs pour ses potentialités.
Non, moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, la RDC entretient des échanges internationaux, des échanges commerciaux avec tous ces pays. Seulement, ces échanges ne se réalisent pas librement. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller au Sud, peut aller au Botswana, et peut aller au Zimbabwe, importer et venir vendre. À l'RDC, c'est permis, les relations commerciales, les échanges commerciaux se déroulent dans ce pays, mais ces échanges commerciaux sont conditionnés par le paiement des droits des douanes. Je crois que le Brando Capi qui a fait la synthèse nous a rappelé que dans cette zone, on prévoit la suppression de 85% des droits des douanes, les 15% dans les avoirs. C'est là que se pose le problème. On ne dit pas, on refuse la coopération, on refuse les échanges, on bloque les frontières. On ne bloque pas les frontières quand l'engrais se produit, mais leur entrée est subordonnée par le paiement des droits des douanes. Ce n'est pas par ça, en dehors, on va perdre, mais la question qui se pose, c'est qu'en adhérant, en acceptant ces principes-là, qu'est-ce qu'on gagnera et qu'est-ce qu'on perdra? Quand on fait cet exercice, on se rend compte que si nous en sommes dans cette zone de libre-échange, nous allons donner moins et recevoir plus. Comme c'est à nous de recevoir, nous nous serons déséquilibrés par rapport à d'autres, c'est notre économie qui va en souffrir, c'est notre budget qui va en souffrir, et on peut créer les chômages, créer l'inflation et déstabiliser notre monnaie.
L'impression
qui se pose au moment où on se dit qu'il faut d'abord un frein, d'abord qu'on met de l'ordre chez nous avant de pouvoir effectuer des échanges librement avec les autres.
L'AMS Camoya, on parle dans cette zone des libre-échanges de la mise en place d'une monnaie unique à l'horizon 2018. Est-ce que notre économie est préparée pour cela?
Non. Moi, je prendrai le cas de l'Union européenne. Aujourd'hui, vous avez le Grande-Bretagne qui est une grande puissance mondiale, mais elle a refusé de rentrer d'adhérer au principe de l'Union monétaire. Aujourd'hui, vous allez en Angleterre, on consomme la livre sterling, le zéro, on considère comme une monnaie étrangère. Alors, c'est pour vous dire que ce ne sont pas des choses qu'il faut accepter comme ça avec beaucoup de plaisir. Ce sont des pratiques économiques et financières qui doivent être faites à ce niveau-là.
Merci, Lams Kamonia. Professeur Bioya Kambale Djo de Bukavu, toujours au sud Kivu, il dit ceci: le refus de la RDC d'adhérer à la zone de libre-échange est à saluer car nos voisins cherchent à nous piller. Qu'en pensez-vous, professeur?
Oui. Non, moi, c'est vrai que, en tant que professeur de relations internationales, je ne dirais pas ça comme cela, parce que nous sommes déjà membres de la SADC, comme l'autre vient de dire, nous avons des rapports avec eux. S'ils nous pillent, c'est qu'ils nous pillent déjà aujourd'hui, ils ne nous pilleront pas à nous laisser adhérer librement à une étape de l'intégration. Nous n'aurions pas dû adhérer à la SADC si nous avions conscience que les autres avaient plus de moyens de disposer de nos ressources sans que nous en tirions profit. Donc, je vois que c'est pas cette perspective. La RDC a raison d'être réaliste. Le réalisme oblige, en fait, l'on ait une stratégie que l'on sache quoi l'on veut faire et pourquoi on veut le faire et qu'on s'engage pas de façon mécanique, automatique. Il n'y a pas d'automaticité. Parce que le processus d'intégration, c'est un processus de cession de la souveraineté. C'est-à-dire, le pays doit s'engager résolument et rationnellement à renoncer à une partie de sa souveraineté économique. Alors, si on ne sait pas le faire, on ne le fait pas. Donc, on ne s'engage pas dans ces unions-là pour le plaisir de le faire. Donc, ce n'est pas tellement parce qu'on va nous piller. Si on nous pille, c'est qu'on nous pille déjà aujourd'hui. Moi, je pense que ce qu'il convient de dire, c'est qu'on a raison de prendre le temps à la réflexion, mais on ne prendrait pas le temps à la réflexion simplement pour attendre. Je ne sais pas quel avenir qui viendrait. On doit préparer cet avenir. On doit d'abord, quand on dit mettre de l'ordre chez nous, c'est quoi? Créer d'abord le marché intérieur. Donner à l'économie congolaise la capacité d'être une économie intégrée de l'intérieur pour que cette intégration interne ait une dimension régionale. Parce que je ne pense pas que l'avenir soit dans l'appartenance à des communautés ou à des organisations. L'avenir appartient à la puissance économique de la RDC qui, en fait, va déborder l'espace et qui pourra faire, comme l'autre l'a dit, que tout un état membre d'organisation, on ne peut pas appartenir à toutes les étapes, à toutes les phases de l'intégration. Merci, comme la Grande-Bretagne.
Merci, professeur Bioya. Professeur Musinga Chipangila, Kasamba Wanango de Bounia, en province orientale, dit ceci: félicitations à la RDC d'avoir refusé d'adhérer à la zone de libre-échange de la SADC, car son marché sera littéralement envahi par les produits de ses voisins et du fait de la faiblesse de son économie. Votre réaction, professeur?
Dans le temps actuel des choses, notre économie à l'est là, qu'est-ce que nous vendons, nous qui sommes ici à Kinshasa ou autre? Ils dépendent entièrement des pays de l'est. La situation, comme le collègue vient de le dire tout à l'heure, si ils nous pillent, c'est qu'ils ont commencé à nous piller depuis très longtemps. Donc ce n'est pas une situation nouvelle. En nous réorganisant, en appartenant à cette organisation régionale, je veux dire, ce sera un moyen de nous mettre sur la même longueur d'onde que les autres. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore prêts.
Merci, professeur. Donc, nous retenons la réorganisation. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Nous avons tenté d'avoir le ministère des Affaires étrangères, mais nos efforts ont été voués à l'échec. Cette émission a été réalisée par Claude Kienza, mise en onde de Paulin Moukéou. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui l'a préparé, Titi Poutou, Jean Desdieux Ogobani, Willy Akonda. Grand merci à nos invités de ce soir, ainsi qu'à nos auditeurs. Bonne soirée chez vous. Thank you.